Chapitre 5. Le cœur humain. Lorsqu'elle eut pris une chaise, son écritoire ouverte devant elle sur le bureau, Moiraine changea d'avis au sujet des conditions. En plein air, la chaleur des braseros se dissipait rapidement. En revanche, la fumée qui lui venait droit dans la figure lui faisait picoter les yeux et lui déclenchait à l'occasion une quinte de toux. Malgré ses chaussures épaisses et sa double paire de bas, la chevauchée lui avait refroidi les pieds. Après un court séjour au sol, ils étaient gelés. Et une centaine de femmes, la plupart avec un enfant dans les bras, s'étaient massées autour du bureau. Bien entendu, chacune exigeait que son nom soit enregistré le premier. Si la majorité portait des vêtements de laine, quelques dames en robe de soie ou en tenue brodée devaient appartenir à la noblesse ou à la classe aisée, voire aux deux en même temps. Ça ne les empêchait pas de crier comme les autres. Des nobles se crêpant le chignon avec des paysannes. Décidément, les Mourandiennes n'avaient aucun sens des convenances. Le casque à la main, Steller brailla à s'en casser les cordes vocales. Mais ses consignes de silence, plus l'ordre de former des rangs, tombèrent dans l'oreille d'une horde de sourdes. Deux soldats firent mine d'intervenir, mais un geste de leur chef les en dissuada. Une très bonne initiative de Steller. Une situation comme celle-là pouvait dégénérer et provoquer une émeute. Moiraine se leva pour tenter d'arranger les choses, même si elle n'avait pas la première idée de ce qu'il fallait faire. Dans son domaine, elle n'avait jamais dû affronter une agitation pareille. Aucune de ces dames de compagnie non plus. Et pourtant, les gens en prenaient plus à leur aise avec les employés. Devançant son ami, Siouan sauta sur sa chaise et saisit les pans de sa cape, comme si elle voulait s'empêcher de brandir les poings. L'aura du Saïdar l'enveloppant, elle tissa un mélange d'air et de feu. Une configuration très simple, qui exigeait fort peu de pouvoir, mais qui amplifiait parfaitement la voix.
« Du calme !»
tonna-t-elle. Un ordre très simple, délivré avec calme, mais assez tonitruant pour que toutes les femmes reculent et se taisent. Alors qu'ils n'étaient pas concernés, les forgerons eux-mêmes cessèrent de jouer du marteau. Dans un silence parfait, Moiraine entendit les raclements de sabots des rares chevaux attachés aux cordes tendues entre des piquets. Steller gratifia Siouan d'un regard approbateur. Quand il s'agissait de beugler, les sergents de tout poil formaient une vaste fraternité. Des bébés se mirent cependant à pleurer. Comprenant qu'elle les avait effrayés, Siouan continua sans le recours de son petit artifice vocal.
« Si vous voulez toucher un sou, il va falloir vous aligner en silence. La tour blanche ne traite pas avec des bandes de sales gamines. Si vous ne vous comportez pas en adulte, vous le regretterez. »
Siouan hocha une fois la tête pour marquer le coup. Puis elle regarda les femmes, histoire de voir si elles avaient compris. Apparemment, c'était le cas. Quand elle eut sauté de sa chaise, les candidates à la prime vinrent former deux rangées devant le bureau, en jouant un minimum des coudes, crut remarquer Moiraine. Les nobles se retrouvèrent devant, comme de juste, leur servante portant l'enfant, mais elles ne manifestèrent à aucun moment l'intention de s'arracher les yeux entre elles. Moiraine se demanda s'il s'agissait de marchandes. C'était possible. Mais de quoi faisait-elle donc le commerce dans un endroit pareil? Par le passé, elle avait vu deux dignes marchandes mourandiennes, tous deux sur leur 31, se rouler dans la poussière comme des chiffonnières, en se battant comme des tigresses. Mais là, tout semblait calme, et les mères dont les enfants pleuraient tentaient même de les calmer. Un groupe de fillettes, entre 10 et 12 ans, s'était formé sur un côté. Emmitouflées dans leur cape, ces gamines désignaient Siouan en murmurant entre elles. Moiraine crut entendre les deux mots « Aes Sedai ». Une adolescente, qui devait avoir 3 ou 4 ans de plus, l'âge de Moiraine à son arrivée à la Tour Blanche, se tenait à l'écart, en faisant mine de ne pas être intéressée. Beaucoup de jeunes filles rêvaient de devenir des Aes Sedai. Très peu avaient le courage de s'engager sur ce chemin, et la force de le suivre jusqu'au bout. Poussant sa cape d'un côté, Moiraine déboucha l'encrier et choisit un porte-plume. Même si le cuir très fin ne la protégeait pas beaucoup du froid, elle décida de garder ses gants.
« Puis-je avoir votre nom, madame ?»
demanda-t-elle à la première femme de s'arranger. Plutôt boulotte, la dame en question portait une robe d'équitation en soie verte d'une qualité discutable, mais c'était néanmoins de la soie, tout comme sa cape bleue bordée de fourrures aux broderies rouges et or. De plus, elle portait une bague à chaque doigt, ornée d'une pierre précieuse en plus. Si rien ne prouvait qu'elle appartenait à la noblesse, un peu de flatterie ne faisait jamais de mal.
« Et celui de votre enfant également ?»«
Je suis Dame Merido Alan à Conlin. » Descendante directe de Catherine d'O'Catalman à Corral, la première reine du Mourandi.
La dame souriait, certes, mais sa voix vibrait de fierté. avec leur accent si chantant, les Mourandiens étaient d'un abord très agréable. Avant de les connaître mieux, on pouvait même les tenir pour des gens aimables et pacifiques. La noble descendante d'une reine tira en avant une solide matrone en robe de laine noire, qui tenait entre ses bras un bébé emmailloté jusqu'au cou et fort mécontent de son sort.
« Voici mon fils, Cédrine, né il y a tout juste une semaine. Quand mon mari est parti pour la guerre, j'ai refusé de rester en arrière, bien entendu. Je ferai encadrer les pièces de la prime. Ainsi, une fois grand, Cédrine saura que sa naissance fut célébrée par la Tour Blanche. »
Moiraine jugea inutile de rappeler que Cédrine partagerait cet honneur avec des centaines, voire des milliers d'enfants, si les autres camps étaient tous comme celui-là. Par la lumière, elle n'aurait jamais cru que tant de femmes avaient accouché. Sans rien montrer de ses sentiments, elle étudia Cédrine un moment. En ce qui concernait les choses de la vie, Moiraine n'avait rien d'une innocente. Elle avait observé des saillies et participé à la venue au monde d'un poulain. Quand on ignorait comment se passaient les choses, impossible de savoir si les serviteurs travaillaient bien. En matière d'enfants, cependant, elle n'avait aucune expérience. Pour elle, Cédrine pouvait avoir une semaine, un mois ou même deux. Postée un peu à l'écart, Steller et ses hommes surveillaient les opérations. Mais sur ce sujet bien précis, ils ne pouvaient guère l'aider. Et de toute façon, Moiraine ne pouvait se résoudre à le leur demander. Si Dame Aconlin mentait, une véritable sœur devrait s'en apercevoir toute seule. La mère qui se tenait devant Siouan serrait dans ses bras un enfant bien plus grand. Mais l'ami de Moiraine était en train d'écrire, et il n'aurait pas été poli de la déranger. Alors qu'elle trempait sa plume dans l'encre, la jeune femme vit passer une mère qui allaitait son petit. Enfoui dans la cape de sa génitrice, le bébé n'était pas plus gros que Cédrine. Pourtant, la femme se tenait volontairement à l'écart de la queue.
« Pourquoi cette mère n'était pas dans les rangs? Son enfant est trop vieux ?»
Le sourire de Dame Aconlin s'effaça. Le front plissé, elle parla d'un ton glacial.
« Je n'ai pas pour habitude de recenser tous les morveux qui naissent dans le camp. »
Elle désigna la feuille de parchemin sur le bureau. À l'index, elle portait une énorme pierre, un véritable œuf de pigeon, mais impur. Ça se voyait à l'œil nu.
« Consignez mon nom, que je puisse retourner sous ma tente, où il fait chaud. »
« Je le ferai, en ajoutant toutes les informations qu'il nous faut, si vous me renseignez au sujet de cette femme. »
Moiraine avait essayé d'imiter le ton autoritaire de Siouan. Pas un franc succès, pour tout dire. Mary Aconlin eut un rictus et plaqua les poings sur ses hanches, comme si elle allait exploser. Avant qu'elle se laisse aller à crier ou à frapper, sa servante intervint, parlant après avoir esquissé une révérence maladroite.
« La fille de Carême a le même âge que le jeune seigneur Cédrine. Pardon de m'en être mêlée, maîtresse, et à vous aussi, Aes Sedai. L'homme que Carême voulait épouser est parti pour devenir un champion, et elle n'aime pas beaucoup celui qu'elle a dû prendre à sa place. Elle ne veut rien devoir à la Tour Blanche, vous comprenez ?»«
Qu'elle le veuille ou non, elle touchera la prime, »
dit Moiraine. Tamra voulait avoir tous les noms, pas vrai ? Le fiancé de Carême avait-il atteint son but ? C'était douteux, car fort peu d'hommes avaient les compétences requises. Un champion ne se contentait pas de manier des armes. Il était une arme. Et ce n'était que la première exigence.
Quel est son nom complet et celui de la fillette?
Carême Molly. Et la petite se nomme Elia.
Si bizarre que cela parut, Dame Aconlin semblait ravie de laisser répondre sa servante. De plus, son expression s'était adoucie. Et elle regardait Moiraine avec une saine méfiance. Au fond, un ton assuré suffisait peut-être, surtout quand on passait pour une Aes Sedai.
De quelle ville vient-elle? Et où est née votre fille exactement?
Demanda au même moment Siouan. Elle avait retiré ses gants, un cadeau d'anniversaire de Moiraine, pour ne pas les tacher d'encre. Sans un nez particulièrement disgracieux, la femme qui se tenait devant elle aurait été d'une beauté à couper le souffle. Très grande, elle devait faire une tête de plus que Siouan.
« Dans une grange, dites-vous. Un quart de lieue à l'ouest d'ici. Ce n'est pas vraiment l'endroit où on s'attend à avoir accouché quelqu'un comme vous. Si près du terme, était-il prudent de chevaucher? Surtout à proximité d'un champ de bataille. »
« Bien.
Maintenant que c'est fait, connaissez-vous une femme qui aurait eu un enfant ces 16 derniers jours et qui ne serait pas présente? Si oui, comment s'appelle-t-elle? Pas de digression, madame. Je veux une réponse, c'est tout. »
La dame s'exécuta sans protester, mais c'était normal, car la façon de faire de Siouan ne laissait pas de place à la contestation. Sans jamais élever le ton, ni utiliser d'expression vulgaire, elle imposait son autorité, tout simplement. Par la lumière, comment s'y prenait-elle? Au fil des heures, Moiraine cessa de considérer comme une aventure la recherche du dragon réincarné, et elle oublia jusqu'à l'excitation d'avoir quitté la ville. Posée sans cesse la même question, consigner par écrit les réponses, mettre la feuille à sécher et en prendre une nouvelle, était 10 fois plus ennuyeux que la pluie. Une routine assommante, avec pour seule pause les moments où la jeune femme se réchauffait les mains au-dessus du brasero, posé de son côté du bureau. Quand on avait mal aux doigts à cause du froid, c'était un réel plaisir, mais rien de franchement excitant. Quant au recensement, eh bien, la seule surprise, c'était le nombre de femmes non mourandiennes. Les soldats en campagne, semblait-il, épousaient facilement une étrangère. Les forgerons recommencèrent à taper sur leur enclume, et des types qui travaillaient sur un chariot leur firent bientôt écho. Apparemment, ils tentaient de mettre en place une nouvelle roue. Si ça continuait, ce vacarme allait flanquer la migraine à Moiraine. Décidément, une journée fabuleuse. La jeune femme fit tout son possible pour ne pas se défouler sur ses interlocutrices. Avec certains spécimens, elle eut beaucoup de mal à se retenir. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'empêcher certaines nobles dames de lui décliner leur arbre généalogique en remontant jusqu'à Arthur L. de Faucon, au minimum. Quelques femmes du peuple firent des difficultés pour révéler le nom du père ou dire d'où elles venaient. À l'évidence, elles redoutaient qu'on utilise l'une ou l'autre information pour les priver de la prime. Dans la plupart des cas, cependant, un regard appuyé suffit à calmer les ardeurs de ses casse-pieds. Les mourandiennes elles-mêmes semblaient hésiter à chauffer les oreilles de femmes qu'elles prenaient, à tort, mais ça elles l'ignoraient, pour des Aes Sedai. Cela dit, ces arguties ralentissaient l'écoulement de la queue, déjà atrocement long quand tout se passait bien. Moiraine ne pouvait s'empêcher de suivre des yeux toutes les femmes enceintes qui déambulaient dans le coin. Hésitantes, certaines paraissaient tentées de prendre leur place dans la file. L'une d'elles pouvait être la mère du dragon réincarné, si elle décidait d'aller accoucher sur les pentes du pic du dragon. Une drôle d'idée, pour être honnête. Les deux seuls bébés nés le jour même étaient des filles, et elles avaient très classiquement vu le jour dans le périmètre du camp ou aux alentours. Une autre acceptée allait mettre la main sur l'enfant, c'était couru, et sans se douter de ce qu'elle avait fait. Moiraine n'en saurait rien pendant des années. Par la lumière, ce n'était pas juste. Elle était dans le secret, et ça ne lui servirait à rien. Alors que midi approchait, Moiraine leva les yeux de son écritoire pour les poser sur une jeune femme en robe de laine noire, qui tenait un nouveau-né au creux de son bras.
Souza Wyn, Aes Sedai, c'est mon nom. Et voilà mon Cyril.
Souza Wyn caressa la tête de l'enfant, emmitouflé dans une couverture. Ignare en matière de bambin, Moiraine savait quand même faire la différence entre un nourrisson et un bébé de 6 ou 7 mois. Alors qu'elle allait dire à la paysanne de ne pas la prendre pour un imbécile, Xuan lui posa la main sur le bras, une fraction de seconde, et sans cesser d'interroger la femme qu'elle enregistrait, mais cela suffit. Souza Wyn n'était pas maigre, mais carrément décharnée. Et elle regardait le monde avec les yeux de quelqu'un qui pense ne plus y avoir sa place. Sa robe et sa cape élimée étaient tellement reprisées qu'il devait y avoir plus de pièces rapportées que de tissus d'origine.
« Le nom du père ?» demanda Moiraine, histoire de gagner du temps pour réfléchir.
L'enfant était bien trop vieux et s'aurait dû mettre un terme au débat, sauf que...
« Jack, Aes Sedai, Jack Wyn, mort avant. »
Des larmes montèrent aux yeux de la jeune veuve.
« Avant même le début des combats, il a glissé dans la neige. » Et s'est fracassé le crâne sur un rocher. Ce n'est pas juste. Faire tout ce chemin pour mourir comme ça.
Cyril eut une quinte de toux caverneuse. Inquiète, Souza se pencha sur lui. Moiraine n'aurait su dire ce qu'il avait décidé. La toux de l'enfant, les larmes de la mère, ou la mort prématurée et absurde du père. Quoi qu'il en soit, elle nota soigneusement le nom et les informations relatives à Souza. La tour blanche pouvait bien se défaire de 100 couronnes pour sauver une jeune veuve et son enfant. Si le petit ne semblait pas mal nourri, Souza crevait de faim, et Dame Mary Aconlin envisageait de faire encadrer sa prime. Moiraine dut faire un effort pour ne pas demander sous quel commandant servait Jack Wyn. Un chef digne de ce nom n'aurait jamais dû laisser les choses aller jusque-là. La noblesse donnait des droits, certes, mais elle impliquait aussi des devoirs. En fait, les responsabilités excédaient de loin les privilèges, d'après ce qu'on lui avait appris. Et pourquoi les amis de cette femme l'avaient-ils abandonnée? Les mourandiens n'en rataient jamais une.
« Que la lumière te bénisse, Aes Sedai !»
dit Souza. Elle tenta d'endiguer un flot de larmes, mais n'y parvint pas.
« Qu'elle brille sur toi, pour l'éternité !»«
Oui, oui, »
souffla Moiraine.
« Avez-vous une guérisseuse dans ce camp ?»
Non, les mourandiens avaient un autre nom pour les femmes capables de soigner avec des plantes. Comment disaient-ils déjà? Vérin Sedai avait donné un cours magistral sur le sujet. L'année où Xuan et Moiraine avaient reçu leur bague.
« Une sage-dame? Une matriarche ?»
Souza hochant la tête, Moiraine prit un sou dans sa bourse et le lui glissa dans la paume.
« Va la consulter pour Cyril. »
Ce geste valut à l'accepter un nouveau torrent de larmes, une avalanche de remerciements
et une tentative de baise-main qu'elle évita de justesse. Par la lumière, Souza n'était pas sa vassale, et les convenances n'étaient pas faites pour les chiens.
Sachant que Souza aura la prime, souffla Siouan quand la femme se fut éloignée. La sage-dame lui aurait fait crédit.
Même si elle ne leva pas la tête, Moiraine devina que de la réprobation s'affichait sur son visage. Comme tous les gens qui n'en avaient pas beaucoup, Siouan faisait très attention à son argent. Moiraine soupira une première fois, inutile de pleurer sur le lait renversé, puis une seconde, lorsqu'elle constata que des murmures couraient dans les deux files de mer. La nouvelle, une Aes Sedai avait accepté le fils de Souza, se répandait comme un incendie dans une plaine. Du coup, de nouvelles candidates vinrent prendre place au bout de la queue, l'une d'entre elles au moins tenant son fils par la main.
« Mon Danil est très pâle ces derniers temps »,
dit la femme au visage rondouillard qui se tenait devant Moiraine. De la cupidité brillant dans ses yeux clairs, elle serrait dans ses bras un bébé qui gazouillait gaiement.
« Aes Sedai, j'aimerais bien consulter la sage-dame, moi aussi. »
La robe grise de la femme semblait quasiment neuve. Le tempérament volcanique de Moiraine prit le dessus et, pour une fois, elle ne fit aucun effort pour empêcher une éruption.
« Je peux le guérir moi-même, »
lâcha-t-elle.
« Bien sûr, il est très jeune, et il risque de ne pas survivre. »
À cet âge, l'enfant ne supporterait pas une guérison. C'était évident. De plus, c'était un des rares tissages que les acceptés n'avaient pas le droit de réaliser sans la présence d'une sœur. Une erreur en matière de guérison pouvait avoir des conséquences catastrophiques, et pas seulement sur la femme qui la commettait. Mais la mère de Daniel ne savait rien de tout ça. Du coup, quand Moiraine tendit une main gantée, elle recula, serrant son enfant contre elle, comme si on voulait le lui arracher pour le dévorer.
« Non, Aes Sedai, merci beaucoup, mais... Eh bien, je préfère... je trouverai bien l'argent de la consultation. »
L'éruption ne dura pas, comme toujours, et Moiraine, un instant, eut un peu honte d'elle-même. Mais un instant seulement. Si la Tour Blanche avait les moyens de se montrer généreuse, une bonne partie de leur pouvoir venait justement de l'idée qu'elle n'en était pas, et il fallait que ça continue ainsi. Des murmures circulèrent de nouveau dans les rangs. Tout au bout d'une file, la femme qui tenait son fils par la main jugea plus prudent de s'éclipser. Moiraine s'en félicita, car elle n'aurait pas pu éviter une confrontation avec quelqu'un qui prenait la Tour Blanche pour un repère d'idiote.
« Bien joué !»
souffla Siouan, tout en continuant d'écrire.
« Très bien joué !» « Daniel, c'est ça? Et votre nom ?»
Moiraine souriait à cause du commentaire flatteur de Siouan. Croyant que c'était une façon de la pardonner, la mère de Daniel répondit, sans chercher à dissimuler son soulagement. Moiraine s'en félicita. Beaucoup de gens redoutaient la Tour Blanche, parfois avec d'excellentes raisons, car les Aes Sedai savaient se montrer durs quand il le fallait. Mais le règne de la terreur était une arme à double tranchant. Tout le monde savait ça. Pour sa part, Moiraine avait appris la leçon bien avant d'arriver à la Tour Blanche. Quand le soleil eut dépassé son zénith, les deux acceptés allèrent chercher leur casse-croûte dans leur sacoche de sel. Demander à un soldat de s'en charger aurait été peine perdue. Assis sur les talons, non loin de leur monture attachée à une corde, les gaillards se régalaient déjà de viande séchée et de pain azim. À l'évidence, ces hommes n'avaient pas l'intention de lever le petit doigt, sauf en cas d'attaque. Cependant, Steller fit un petit signe de tête lorsque les deux femmes passèrent près de lui. Un signe approbateur, crut deviner Moiraine. Décidément, les hommes étaient bizarres. La moitié des mères seulement étant recensées, et encore pas tout à fait, la jeune femme s'était attendue à des protestations. Mais les candidates en souffrance d'inscription se dispersèrent en silence pour aller chercher à manger. Une noire, à l'accent de Théar, apporta aux deux Aes Sedai un plein pot d'infusion fumante et deux chopes craquelées sur le bord. Une vieille dame mince aux cheveux gris vint avec deux chopines de vin chaud aux épices. Son visage parcheminé semble n'en avoir jamais esquissé un sourire, elle parla d'une voix grave étonnante pour une femme.
« Souza Win est trop fière pour accepter plus que des miettes de nourriture, sauf pour son fils. Vous avez très bien agi avec elle. »
Saluant de la tête, la vieille dame se détourna et repartit dans la neige, le dos droit comme celui d'un garde de la tour à la parade. Une manière de se comporter étrange face à deux Aes Sedai.
« Elle sait qui nous sommes, »
dit Siouan en s'emparant d'une chopine, la tenant à deux mains pour se réchauffer les doigts. Même si elle portait des gants, Moiraine ne cracha pas sur l'occasion. Sa pauvre amie devait avoir les mains gelées.
« Elle ne dira rien, »
souffla Moiraine après quelques instants de silence. Siouan acquiesça. Avec Steller et ses hommes comme anges gardiens, il n'aurait pas été gênant que la vérité s'ébruite. Mais mieux valait ne pas faire de vagues. Cela dit, il était ironique qu'une femme du peuple ait su faire la différence entre deux acceptés et deux Aes Sedai, alors que des nobles s'en étaient montrés incapables, à moins que la vieille dame ait reconnu les robes des acceptés.
Elle a dû venir à la Tour Blanche quand elle était jeune, je crois.
Une fille incapable d'apprendre à canaliser n'avait pas dû tarder à être renvoyée dans ses foyers, mais non sans avoir vu des Aes Sedai et des acceptés. Xuan jeta un regard en biais à son amie, comme si elle venait de dire que l'eau mouillait. Parfois, sa façon d'avoir toujours un temps d'avance pouvait être très agaçante. Les deux amis parlèrent très peu en mangeant leur pain, leur fromage et leurs fruits secs. Pendant les repas, les novices étaient astreintes au silence. Les acceptés ayant consigne de rester dignes, elles s'habituaient à se restaurer dans le calme. Si les deux amis ne touchèrent pas à leur vin, les acceptés y avaient droit avec les repas, mais il était coupé d'eau, et il eût été inconvenant que l'une d'elles finisse un repas pompette, Moiraine eut la surprise de dévorer jusqu'à la dernière miette de sa ration, qu'elle avait pourtant jugée trop copieuse. Être exposée au froid ouvrait peut-être l'appétit. Elle était en train de replier les morceaux de tissu qui contenaient son repas, en regrettant qu'il n'y ait pas eu plus d'abricots secs, lorsque Xuan murmura un « Oh non !» qui la força à relever promptement la tête. Aussitôt, elle eut comme la nausée. Avançant lentement entre les tentes et les chariots, deux sœurs venaient d'entrer dans le camp. Dans les conditions actuelles, des femmes vêtues de soie qui se déplaçaient sans escorte hors de la ville ne pouvaient être que des Aes Sedai. Et ces deux-là étaient accompagnées d'un seul homme. Un noir vêtu d'une cape aux couleurs fluctuantes, qui donnait parfois l'impression qu'il se fondait dans le décor, disparaissant à la vue durant quelques secondes. Le regard vif, ce champion, comparé aux gardes de la tour, de bon toutour rien de plus, avait toute la souplesse et la vivacité d'un félin. La cape d'un champion étant toujours un spectacle désorientant, des murmures s'élevèrent sur son passage, tandis qu'on le montrait du doigt, quand c'était possible. Fascinés, les forgerons cessèrent de nouveau de jouer du marteau. Mais pas longtemps, hélas. Si Moiraine avait l'estomac noué, ce n'était pas à cause de l'irruption de deux sœurs, mais de deux sœurs bien particulières. Dans les ombres de sa capuche, Moiraine avait reconnu Meilin Argania, une des sœurs les plus respectées de la Tour Blanche. D'après ce qu'on racontait, nul ne disait du mal de cette Aes Sedai aux cheveux grisonnants et au manteau volontaire. En d'autres termes, son arrivée n'aurait pas perturbé Moiraine. Mais l'autre nouvelle venue était Elaïda Aroihan. Par la lumière, que fichait-elle ici? Devenue conseillère de la reine d'Andorre 3 ans plus tôt, elle revenait de temps en temps à la tour pour tenir la chaire d'Amirline informée des derniers événements andoriens. Chaque fois, et à leur grand regret, Moiraine et Xuan ne tardaient pas à recevoir sa visite. Les deux amis s'inclinèrent respectueusement dès que les deux Aes Sedai furent assez près.
« Nous avons la permission d'être ici !»
lança ensuite Xuan. Meilin elle-même risquait d'être mécontente, si elle morigénait les deux acceptés pour apprendre ensuite qu'elle n'avait rien fait de mal. Et Laïda, elle, aurait été furieuse, car elle détestait avoir l'air ridicule.
« La chère d'Amirline nous a ordonné de... »«
Nous le savons !»
fit sèchement Meilin.
« Vu comment la nouvelle se répand, tous les chats de Seleïsine le seront bientôt aussi. »
À son ton, on ne pouvait pas dire si Meilin approuvait ou non la décision de Tamra. Sur son visage lisse, bien malin qui aurait pu lire une émotion. Et il en était ainsi depuis toujours, disait-on. D'une main gantée, elle ajusta un pan de sa robe d'équitation fendue. Membre de l'Aja Blanc, d'où la couleur de sa robe néanmoins ourlée de bleu, elle avait un champion. Une pratique peu répandue parmi les sœurs de son obédience. Drapée dans la philosophie et le rationalisme, la plupart de ses collègues prétendaient ne pas avoir besoin d'un protecteur. Moiraine aurait donné cher pour que l'Aes Sedai mette pied à terre. Perchée sur son ongre pommelé de haute taille, cette femme, presque aussi grande que la plupart des hommes, du Kairien en tout cas, lui donnait l'impression d'être minuscule. À force de lever la tête pour la regarder, elle redoutait d'attraper un torticolis.
« Vous êtes surprise de me voir ?»
demanda Elaïda, du haut de sa jumambaie à la jambe particulièrement fine. Sa robe brodée de fil d'or n'était ni rouge clair ni bordeaux, mais rouge vif, comme pour crier aux quatre vents à quel âge elle appartenait. Et sa cape bordée de fourrure noire, exactement de la même couleur, faisait dans la redondance, au cas où quelqu'un n'aurait pas bien compris. Au goût de Moiraine, cette couleur aurait été parfaite pour la roulotte d'un Zingaro. Pour l'heure, Elaïda souriait, et ça n'adoucissait en rien ses traits. Sans son extrême sévérité, nul doute qu'elle aurait été jolie. Mais sévérité aurait pu être son deuxième prénom.
« Je suis arrivé à Tarvalon juste avant les Aiel, et depuis, je suis très occupé. Mais n'ayez crainte, je m'occuperai de vous deux. »
Moiraine aurait juré que son moral ne pouvait pas sombrer davantage, et elle se serait trompée, car elle eut un mal de chien à ne pas gémir de désespoir.
« Tu accordes trop d'importance à ces filles, Elaïda, » dit Meilin. « Si elles pensent être tes toutous préférées, elles auront les chevilles qui enflent, en admettant que ce ne soit pas déjà fait. »
Moiraine échangea un regard indigné avec Xuan. « Des toutous ? Deux chèvres servant d'appât à des lions, peut-être, mais des toutous, jamais. Depuis qu'elle avait obtenu le châle, Elaïda n'en référait qu'à la chair d'Amerline et au hall de la tour. Pourtant, elle sembla donner raison à l'autre Aes Sedai.
Tu parles d'or, Maeline, mais il semble probable qu'elle subisse l'ultime épreuve avant la fin de l'année. Je l'espère, et j'attends qu'elle réussisse haut la main, toutes les deux.
Même cette déclaration manquait de mordant. D'habitude, Elaïda était aussi entêtée et déterminée qu'un taureau. Sauf exception, elle renversait tous les imprudents qui se dressaient sur son chemin. La sœur Blanche se contenta de hocher la tête, comme si le sujet lui semblait trop futile pour continuer à en débattre.
« Vous avez tout ce qu'il vous faut, mes enfants ? »
demanda-t-elle.
« Certaines d'entre vous se sont particulièrement mal préparées, je dois le dire. Combien de noms vous reste-t-il à relever ?»«
Environ 50, Maeline Sedai, » répondit Siouan.
« Sans doute un peu plus. »
Maeline jeta un coup d'œil au soleil, qui avait déjà bien entamé sa descente vers l'ouest. Les nuages chargés de neige dérivaient vers le sud, laissant derrière eux un ciel limpide.
« Dans ce cas, écrivez vite !»«
Vous devrez être de retour avant la nuit, savez-vous ?»«
Tous les camps sont-ils ainsi ?»
s'enquit Moiraine.
« J'aurais cru que des hommes occupés à faire la guerre n'avaient pas la tête à... »
Elle n'acheva pas sa phrase, les joues un peu roses.
« À se reproduire comme des brochets ?»
murmura Siouan. Moiraine l'entendit à peine, mais ça suffit à la faire virer au rose foncé. Par la lumière. Pourquoi avait-elle posé cette fichue question ?«
Les Kyrienniens !»
lâcha Maeline, presque amusée. Mais elle se ressaisit très vite.
« Quand un homme craint de mourir, il désire laisser quelque chose derrière lui. Et lorsqu'elle pense que son homme peut quitter ce monde, une femme a envie qu'il lui offre une part de lui-même. Résultat, les naissances abondent pendant les guerres. C'est illogique, connaissant les épreuves qu'attendent l'enfant si son père ou sa mère succombent. Mais c'est humain. Et le cœur humain est rarement rationnel. »
Une explication précieuse, et qui laissa Moiraine avec les joues en feu. Certaines choses se faisaient en public, et on pouvait en parler librement. D'autres se pratiquaient en privé, et il convenait de ne jamais les évoquer. Désireuse de reprendre le contrôle de ses émotions, Moiraine fit des exercices mentaux pour se calmer. Elle imagina être la berge qui retenait les eaux d'une rivière, puis un bouton de fleur qui s'ouvrait sous la caresse du soleil. Elle eut du mal à se concentrer sous le regard de Laïda. Tel un sculpteur armé de son burin, Aes Sedai les étudiait, Siouan et elle, comme si elle se demandait à quel endroit retirer de la matière pour obtenir l'effet souhaité.
« Oui, oui, Andro, »
dit soudain Maeline.
« Nous y allons dans un moment. »
Elle n'avait même pas tourné la tête vers son champion, qui acquiesça pourtant comme si elle venait de lui répondre, alors qu'il n'avait rien dit. Mince et pas plus grand que son Aes Sedai, Andro avait l'air juvénile, jusqu'à ce qu'on croise son regard. Moiraine en oublia son embarras et en resta bouche bée, pas à cause du regard de statue d'Andro, cependant. Une sœur et son champion, elle le savait en théorie, sentaient leurs émotions, leur état de santé respectif, et avaient en permanence conscience de la localisation de l'autre, en tout cas dans un rayon raisonnable. Quand ils étaient séparés par une grande distance, ils avaient au moins une idée de la direction à suivre pour se retrouver. Mais là, il semblait y avoir eu communication mentale. On murmurait que les sœurs en étaient capables, mais comment vérifier? Tant qu'on n'avait pas obtenu le châle, certaines choses restaient secrètes. Par exemple, le tissage requis pour se lier à un champion. Maeline riva son regard dans celui de Moiraine.
« Non, »
dit-elle,
« je ne lis pas ses pensées. »
Les cheveux de l'accepté parurent vouloir se dresser sur sa tête. Si Maeline le disait, ça devait être vrai. Pourtant, tout semblait indiquer que
« quand on a un champion depuis longtemps, on devine ce qu'il pense. Et l'inverse est également vrai. C'est une affaire d'interprétation. »
Elaïda eut un ricanement relativement discret. L'Aja Rouge était le seul à refuser systématiquement les champions, parce que ses membres, disait-on, détestaient tous les hommes.
« En toute logique, »
dit Maeline en se tournant vers Elaïda.
« Les sœurs rouges auraient besoin de champions plus que toutes les autres, à part peut-être les vertes, et encore. Mais qu'importe, les Ajas sont libres de choisir. »
Elle leva ses rênes.
« Tu viens, Elaïda ? Nous devons joindre le plus d'acceptés possible. Certaines vont perdre le sens du temps, et il leur faudra un pense-bête. » « N'oubliez pas, mes enfants, avant la nuit !»
Moiraine aurait parié sa cape sur une explosion de colère de Laïda, ou au moins un éclat de fureur dans ses yeux. La remarque sur les champions n'était pas loin de violer toutes les convenances qui régissaient les rapports entre les sœurs. En d'autres termes, l'ensemble de ce qu'on pouvait dire ou non. Ce n'étaient pas des lois, mais des coutumes peut-être encore plus enracinées. Et chaque accepté devait les connaître par cœur. Mais Elaïda fit avancer son cheval sans dire un mot. En regardant partir les deux Aes Sedai, Andro fermant la marche, Siouan soupira de soulagement.
« J'ai eu peur qu'elle reste, »
pour superviser notre travail.
Moi aussi,
avoua Moiraine. Inutile de préciser de qui parlaient les deux amis. Agir ainsi aurait été en accord avec le personnage. Son exigence de perfection englobait absolument tout ce que faisaient les deux jeunes femmes.
Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait?
Siouan n'avait pas de réponse. Et de toute façon, ce n'était pas le moment d'en débattre. Voyant que les deux Aes Sedai avaient fini de manger, les femmes avaient reformé la double file d'attente. Après la visite d'Elaïda et Meilin, elles ne semblaient plus si sûres que ça d'avoir affaire à des Aes Sedai, justement. Un regard glacial et un ton ferme ne suffirent plus à étouffer dans l'œuf la contestation. Siouan dut se résoudre à crier, ce qu'elle fit avec un grand talent naturel. Et elle se passa plusieurs fois la main dans les cheveux pour exprimer sa rage. À trois reprises, pour réussir à chasser des mères accompagnées d'enfants ridiculement trop vieux, Moiraine dut menacer de clore le recensement. Sa détermination aurait sans doute chancelé s'il y avait eu une autre Souza. Mais ces resquilleuses-là, bien nourries et bien vêtues, étaient uniquement motivées par la cupidité. Pour finir en beauté, alors qu'il restait encore une dizaine de femmes à enregistrer, Steller approcha du bureau, son casque sur le crâne, et tirant sa monture par la bride. Ses hommes le suivaient, et deux d'entre eux tenaient les rênes de flèche et du cheval de Siouan.
« C'est l'heure !» dit le sergent de sa voix rauque. « J'ai différé le départ tant que je pouvais. Mais si on attend encore, il sera impossible d'atteindre la tour avant le coucher du soleil. »«
Minute !»
protesta une des mères.
« Elles doivent encore noter nos noms !»
Des murmures rageurs montèrent du petit groupe de femmes.
« Regardez le soleil, soldat !»
dit Siouan, qui semblait très agacé. Elle leva les yeux, tout en se passant une nouvelle fois la main dans les cheveux.
« Il nous reste beaucoup de temps !»
Moiraine regarda elle aussi le soleil, vraiment très bas à l'ouest, et elle n'aurait pas juré que son amie avait raison. Elles étaient à près de 2 lieues de la tour, avec à la fin du trajet une lente progression dans des rues bondées. Mais si elles étaient en retard, aucune excuse ne serait acceptée. Le front plissé, Steller fit mine de parler, mais la vieille femme qui avait apporté du vin un peu plus tôt se campa soudain devant lui avec 5 ou 6 dames tout aussi vénérables, le forçant à battre en retraite.
« Laissez ces petites tranquilles, c'est compris ?»
D'autres femmes vinrent encercler le sergent et ses hommes. La moitié de ses furies brandissait le poing en criant, tandis que les autres, fulminant en silence, serraient très fort la poignée du couteau accroché à leur ceinture. Les forgerons, cessant de taper, regardèrent la scène en soupesant leur marteau d'un air pensif. De très jeunes hommes, en fait des adolescents, se massèrent un peu à l'écart, l'air furieux. Certains dégainèrent leur couteau à tout hasard. Par la lumière, une émeute s'annonçait pour de bon.
« Écris !»
lança Siouan à Moiraine.
« Elles ne le retiendront pas longtemps. »
Elle leva les yeux sur la femme campée devant elle.
« Votre nom ?»
Moiraine obéit à son amie. Les femmes qui attendaient d'être recensées semblant partager l'opinion de Siouan, il n'y eut plus de polémique. Après avoir entendu les questions à longueur de journée, elle les connaissait par cœur et commençait directement par les réponses. Prise de vitesse, Moiraine dut plusieurs fois demander qu'on lui répète les informations. Lorsque Steller et ses hommes se furent dégagés du cercle de femmes sans violence, histoire de ne pas avoir sur le dos tous les hommes présents dans le camp, Moiraine était en train de souffler sur sa dernière feuille de parchemin afin de faire sécher l'encre. Son travail terminé, Siouan tentait de remettre de l'ordre dans sa coiffure avec son peigne en bois précieux. L'air sombre derrière la grille de son casque, Steller lâcha simplement.
« Nous allons avoir besoin d'un peu de chance à présent. »
Il guida la colonne hors du camp au trot, les sabots des chevaux soulevant des gerbes de neige. Voyant que Siouan était secoué comme un sac de patates, il ordonna à 2 hommes de chevaucher sur ses flancs pour la retenir si elle tombait. Accrochée d'une main au pommeau de sa selle, la fille de pêcheur parut vexée, mais elle n'ordonna pas aux 2 gardes de lui ficher la paix. Moiraine s'avisa soudain que son amie ne lui avait pas demandé le fameux ongan. Après ce qu'elle était en train de vivre, elle risquait d'en avoir plus besoin que jamais. Après environ 1/4 lieue, Steller passa au pas. Un autre 1/4 plus loin, il relança la colonne au trot. Sans ses 2 anges gardiens, Siouan n'aurait jamais tenu en selle. Moiraine voulut voler à son secours, mais le visage déterminé de son ami et un nouveau coup d'œil au soleil couchant l'en dissuada. Si elle attirait l'attention sur ses piètres qualités de cavalière, Siouan risquait de lui en vouloir pendant des jours. Et si elle lui valait une visite dans le bureau de Méréane pour avoir retardé la colonne, sa rancune pouvait bien être éternelle. Steller alterna le trot et le pas jusqu'à la ville. Dans les rues, grouillantes de monde comme prévu, il dut se résigner à rester au pas. Du coup, le soleil disparaissait presque à l'horizon quand les cavaliers entrèrent dans la cour des écuries ouest. Des filles d'écurie vinrent prendre en charge Flèche et la monture de Siouan, et un jeune sous-lieutenant foudroya Steller du regard, tout en lui rendant son salut. Un bras plié sur la poitrine.
« Tu es en retard !»
grogna le jeune militaire, comme s'il cherchait une excuse pour se défouler sur quiconque tombait sous la main.
Elles t'ont fait des ennuis ?
Alors qu'elle aidait Siouan à mettre pied à terre, Moiraine retint son souffle.
Non, elles ont été dociles comme des agneaux.
La jeune acceptée soupira de soulagement. Une fois descendue de sa monture, Steller se tourna vers ses hommes.
Avant que vous songiez à manger, je veux que les chevaux soient bouchonnés et toute la céleri huilée. Compris ? Marvin, tu sais pourquoi je te regarde en disant ça, pas vrai ?
Moiraine demanda au jeune officier ce qu'il fallait faire des écritoires.
« Laissez-les ici, »
marmonna le type, maussade.
« Quelqu'un viendra les chercher. »
Sur ces mots, il s'éloigna à grands pas, sa cape volant dans son dos.
« Pourquoi est-il de cette humeur ?»
demanda Moiraine. Les yeux rivés sur ses soldats, qui s'éloignaient avec leur monture, Steller répondit à voix basse, afin que seules les deux femmes entendent.
« Il voulait combattre les aïeuls. »
« Je me fiche que ce crétin a des velléités héroïques, »
grommela Siouan. Elle s'appuyait à Moiraine, et se serait sûrement écroulée, sans son soutien.
« Je veux un bain chaud et mon lit. Qu'on ne me parle pas du dîner. Un bon programme. »
acquiesça Moiraine, sauf en ce qui concernait le dîner. Pour sa part, elle avait une faim de loup. Siouan réussit à marcher seule, mais en titubant, et elle eut visiblement un mal de chien à ne pas gémir de souffrance. Cependant, elle refusa que Moiraine porte son sac. La douleur ne la battait jamais. En fait, rien ne la battait. Lorsque les deux jeunes femmes atteignirent leur galerie, dans les quartiers des acceptés, tout espoir de prendre un bain les quitta, car Catherine les attendait.
« Juste à temps !»
souffla-t-elle, emmitouflée dans sa cape à l'ourlet rayé.
« J'ai cru crever de froid, en vous attendant. »
De longs cheveux noirs ondulés encadrant son visage taillé à la serpe, Catherine n'avait pas la langue dans sa poche. Avec les novices et les acceptés, en tout cas. Devant les Aes Sedai, elle se montrait dégoulinante d'obséquiosité.
« Moiraine, Meriane veut te voir dans son bureau.
« Pourquoi ?» demanda Siouan.
« Nous ne sommes pas en retard. « Mais Réan me confie toujours ses petits secrets, tu sais bien. »
répondit Catherine, ironique.
« Il s'agit seulement de Moiraine, Siouan. Bon, le message est délivré, et je veux mon dîner puis mon lit. Demain, dès l'aube, nous devrons recommencer cette corvée. Qui eût cru que je regretterais un jour d'être obligé de sortir de la ville ?»
Catherine se détourna, et Siouan riva un œil noir sur son dos.
« Un de ces quatre. Elle s'empoisonnera toute seule avec sa langue de vipère. » « Tu veux que je t'accompagne, Moiraine ?»
Qui aurait désiré le contraire ? Même si elle n'avait rien sur la conscience, ces derniers temps, une convocation dans le bureau de Meriane n'était jamais de bon augure. Beaucoup de novices et d'acceptés y venaient volontairement pour pleurer sur l'épaule de Meriane, quand le mal du pays ou la pression des études les faisait craquer. Mais une convocation, c'était tout autre chose. Pourtant, Moiraine secoua la tête avant de tendre sa cape et son sac à Siouan.
« Le pot d'ongan est dans le sac. Tu verras, ça fait un bien fou. »
Siouan eut un sourire ravi.
Je pourrais quand même t'accompagner. Mon traitement peut attendre. Tu parviens à peine à marcher. Allez, va te soigner. Je ne sais pas ce que me veut Meriane, mais ça ne devrait pas être long.
En supposant que la maîtresse des novices n'ait pas découvert une facétie que Moiraine croyait à tout jamais enfouie dans l'oubli. Si c'était le cas, Siouan échapperait à la punition. Et c'était déjà ça. Après la cavalcade, elle n'était pas en état d'en supporter davantage. Le bureau de Meriane se trouvait à l'autre bout de la tour, près des quartiers des novices, un étage au-dessous des appartements de la chaire d'Amerline. Dans le grand couloir qui y conduisait, les carreaux du sol étaient rouges et verts pour un chemin d'un bleu profond. S'arrêtant devant une porte flanquée par deux tapisseries aux couleurs vives, Moiraine prit une grande inspiration, se lissa les cheveux, en regrettant de ne pas avoir pris le temps de les brosser, puis elle frappa deux fois au battant. Assez fort, car Meriane détestait que les gens grattent à sa porte comme des souris.
« Entrez !»
lança une voix familière. Non sans avoir pris une seconde inspiration, Moiraine obéit. Contrairement à celui de Tamra, le bureau de Meriane, plutôt petit, était des plus ordinaires, avec ses murs lambrissés de bois sombre et son mobilier quelconque. Selon Moiraine, les acceptés du siècle précédent reconnaîtraient les lieux, comme si elles venaient de les quitter, et celles du siècle d'avant aussi. À bien y regarder, la table basse, aux pieds sculptés d'une bizarre façon, pouvait être bien plus ancienne que ça. Tout comme le miroir au cadre conservant encore par endroits les traces d'un plaquage à leur fin. En face de ce miroir se dressait un étroit cabinet que Moiraine préférait ne pas regarder. C'était là que Meriane gardait sa badine, son martinet et sa savate, un outil pire que les autres, d'une certaine façon. À la grande surprise de Moiraine, la maîtresse des novices était debout, pas assise derrière son bureau comme d'habitude. Très grande, Moiraine lui arrivant à peine au menton, Meriane portait un chignon de cheveux gris qui faisait un peu oublier son visage lisse et sans âge, et accentuait son air tendrement maternel. Sans doute à cause de ça, les jeunes femmes qu'elle faisait pourtant si souvent pleurer adoraient venir sangloter sur son épaule lorsqu'elles avaient du vague à l'âme.
Il fallait aussi ajouter qu'elle était sincèrement douce, gentille et compréhensive. Tant qu'on ne violait pas le règlement, c'était une vraie mère poule, extraordinairement douée pour susciter les plus intimes confidences.
« Assieds-toi, mon enfant, »
dit-elle d'un ton grave. Méfiante, Moiraine prit place sur le siège disposé devant le bureau. Méréane devait vouloir lui annoncer une mauvaise nouvelle, ça semblait évident. Mais à quel sujet ?«
Mon enfant, il n'y a pas de façon agréable de dire ces choses-là. Le roi Laman a été tué hier, en même temps que deux de ses frères. N'oublie jamais que nous ne sommes que des fils de la trame, alors que la roue tisse comme elle l'entend. La lumière puisse-t-elle éclairer leur âme ?»
dit Moiraine.
Et puissent-ils reposer dans la paume du Créateur jusqu'au jour de leur résurrection ?»
Méréane fronça les sourcils, à l'évidence surprise que la jeune acceptée n'ait pas éclaté en sanglots en apprenant la mort de ses trois oncles. Mais la maîtresse des novices ne connaissait pas Laman, un homme distant qui brûlait d'ambition, la seule forme de chaleur présente en lui. Selon Moiraine, s'il était resté célibataire, c'était parce que la perspective de devenir reine du Kairien ne suffisait pas à motiver les éventuelles candidates. Mauressine et Aldecane étaient encore pires, car ils brûlaient en permanence de haine, leur cruauté n'ayant pas de bornes. Bien entendu, tous trois méprisaient le père de Moiraine, un savant qui s'était marié en seconde noce à une érudite, au lieu de choisir une héritière qui aurait apporté des terres ou des relations à la maison d'Amodred. Moiraine prierait pour le repos des trois frères, mais elle avait plus de chagrin pour Jack Wynne, un inconnu, que pour eux.
« Tu es sous le choc, »
dit Méréane,
« mais ça passera. Quand tu iras mieux, viens me voir, mon enfant. En attendant, rien ne te force à sortir demain. J'expliquerai ta situation à la chaire d'Amerline. »
Pour tout ce qui concernait les novices et les acceptés, Méréane avait la haute main. Apprendre que Tamra avait envoyé les acceptés en mission, sans la consulter, avait dû froisser sa susceptibilité.
« Merci de votre gentillesse, » dit Moiraine. « Mais avoir une occupation et être avec mes amis m'aidera à surmonter mon chagrin. Si je reste ici demain, je serai seul. »
Méréane ne parut pas convaincue. Après d'autres paroles consolantes, parce qu'il lui semblait vital d'apaiser un chagrin d'autant plus vif qu'il était contenu, elle laissa Moiraine repartir pour sa chambre. Une fois sur place, la jeune femme découvrit qu'un feu crépitait dans la cheminée. L'œuvre de Siouan, sans nul doute, qui avait aussi allumé les deux lampes à huile. Moiraine envisagea d'aller voir sa camarade, mais elle renonça, persuadée que celle-ci dormait déjà comme une masse. Il serait encore possible de dîner pendant une heure au réfectoire. L'appétit toujours très vif, la jeune femme préféra rester dans sa chambre, agenouillée pour saluer la mémoire de ses oncles. Une pénitence. Même si elle n'avait aucune intention d'imiter les sœurs, qui saisissaient la moindre occasion de faire pénitence, une façon de maintenir un certain équilibre dans leur vie, affirmait-elle, que c'était de la stupidité ostentatoire, Moiraine s'en voulait un peu de ne rien ressentir, si détestable qu'aient été les défunts. Cette sécheresse de cœur n'était pas une bonne chose. Lorsqu'elle estima qu'on ne la servirait plus au réfectoire, désormais abandonnée aux femmes de ménage, la jeune acceptée se releva, se déshabilla et entreprit de se laver, après avoir utilisé un filament de feu pour chauffer l'eau. Des ablutions glaciales auraient été une autre pénitence, mais il y avait des limites au repentir. Après avoir éteint les lampes, Moiraine tissa une protection afin que ses rêves n'affectent pas les autres occupantes de la tour. Entre femmes capables de canaliser, ça pouvait arriver. Et c'était souvent pour le moins embarrassant. Bien au chaud sous ses couvertures, la jeune femme s'endormit très vite. Hélas, les cauchemars ne tardèrent pas à l'assaillir. Pas au sujet de ses oncles, ni même de Jack Wynne, mais d'un enfant gisant dans la neige, sur les pentes du pic du dragon. Des éclairs déchiraient le ciel, et le tonnerre était en réalité les cris du pauvre petit. Moiraine rêva aussi d'un jeune homme sans visage. Dans ce songe, il y avait également des éclairs. Mais c'était l'inconnu qui les invoquait. Des villes et des nations brûlaient. Le dragon s'était réincarné. Moiraine s'éveilla en larmes. Dans la cheminée, le feu agonisait. Au lieu de rajouter du bois, la jeune femme utilisa la pelle pour recouvrir les braises de cendres, puis elle s'enveloppa d'une couverture et sortit dans la nuit glaciale. Pourrait-elle se rendormir? Elle n'en savait rien. Mais une chose était sûre, pas si elle restait seule. Elle aurait parié que Siouan dormait. Pourtant, lorsqu'elle se fut glissée dans sa chambre, son ami demanda aussitôt « C'est toi ?» Dans la cheminée de Siouan, de petites flammes fournissaient assez de lumière pour que Moiraine voie son ami écarter un pan de ses couvertures. Elle répondit sans hésiter à cette invitation.
« Tu fais aussi des cauchemars ? »
demanda-t-elle.
« Oui. Que pourraient faire les Aes Sedai, Moiraine ? Même si elles le trouvent, que pourraient-elles faire ?
Le conduire ici, »
répondit Moiraine avec une assurance feinte.
« Où il sera protégé ? »
En principe, en tout cas. Malgré ce que disaient les prophéties, il n'y aurait pas que les sœurs rouges pour vouloir sa mort.
Protégé et formé, oui.
Car le dragon réincarné
aurait besoin d'une solide éducation. Il devrait en savoir aussi long sur la politique qu'un roi ou une reine, et avoir, en matière militaire, l'expertise d'un général. Sans oublier l'histoire, où il lui faudrait être l'égal des plus grands érudits. Selon Vérine Sedaille, les pires erreurs des dirigeants avaient pour cause l'ignorance du passé. Quand on connaissait les bévues des autres, on ne le répétait pas.
Et guider.
Le plus important de tout, afin qu'il prenne les bonnes décisions.
Moiraine, la tour ne peut pas lui apprendre à canaliser le pouvoir.
C'était exact. Pour les hommes, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il fallait aux femmes. Le jour et la nuit, disait Vérine Sedaille. Parce qu'un oiseau ne pouvait pas apprendre le vol à un poisson. Pour survivre, il devrait se débrouiller seul. Les prophéties n'annonçaient pas qu'il réussirait, ni même qu'il échapperait à la folie avant l'ultime bataille. Pour que l'humanité ait une chance, il devait y participer. C'est tout ce que disaient les prédictions. Et il fallait y croire aveuglément.
« Tu crois que Tamra passe aussi une mauvaise nuit ?»
Siwan ricana.
« Les Aes Sedai ne font pas de cauchemars. »
Sans doute, mais les deux amis n'avaient pas encore leur châle, et elles ne parvinrent pas à fermer l'œil de la nuit. Moiraine n'osa pas demander à Siwan ce qu'elle voyait, tandis qu'elle regardait fixement le plafond. Pour sa part, elle contempla en boucle un bébé qui hurlait dans la neige, et un inconnu sans visage qui commandait à la foudre. Contre ces cauchemars-là, être éveillé ne servait à rien.